le dessin au quartier, le dessin au quartier. Là-bas, besoin de marche-pied pour engueuler son brigadier. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards. Le hussard au manège, le hussard au manège. Malgré la base un qu'il protège, plus du bison d'or que son siège. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards. Le hussard en amour, le hussard en amour, va de l'avant comme un tambour, jamais on n'a vu rester court. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards. Le hussard au cercueil, le hussard au cercueil, même après qu'il a tourné l'œil, s'écrit encore avec orgueil. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards.
Radio Solidarité, au cœur de l'action. C'est maintenant, c'est l'instant.
Bonjour à tous, c'est Laurent, en direct de Ligny. Aujourd'hui, journée exceptionnelle. Nous sommes le 16 juin 1815, bataille de Ligny, sous la pluie. Et nous avons des invités de prestige. Nous avons Franck Simon, alias le maréchal Ney. Bonjour maréchal.
Bonjour.
Alors je dois vous appeler maréchal, Francky. Comment dois-je vous appeler ?
Vous pouvez dire monseigneur, ça me va très bien.
Monseigneur, c'est quoi la reconstitution ici en Belgique lors de cette campagne de Belgique ? Elle se termine dans quelques jours, 18 juin, la bataille de Waterloo et la fin de l'Empire.
Alors ici, déjà je ne suis pas né, parce que né d'office, mais Michel Ney, je suis sur Waterloo, et ici je représente Grouchy, donc un autre maréchal qui a combattu à Ligny. Ben, le mot reconstitution vient de l'anglais du reenactment, c'est reconstituer comme un copiste fait un tableau, nous on essaie de reconstituer comme à l'époque les uniformes, et les batailles, et les règlements.
Pour les connaisseurs d'histoire en Belgique vous connaissent, vous participez depuis de nombreuses années à la bataille de Waterloo, avec le bicentenaire qu'il y a eu en 2015, et vous aviez participé et organisé cette bataille pour le bicentenaire. Comment ça se passe pour reconstituer une bataille à l'identique ?
Alors, je veux dire, c'est assez simple puisqu'on connaît l'histoire, on sait que les Français perdent. Donc la mise en place, elle est aussi assez simple puisqu'on essaye de travailler sur les règlements et de mettre sur les règlements en activité sur ce champ de bataille. Donc on part du simple peloton, bataillon, corps d'armée et avec une hiérarchie qui va transmettre les ordres. Donc c'est pas très compliqué et on ne sait pas, comme aux pièces de théâtre, on ne sait pas répéter non plus. Par exemple, pour le bicentenaire, on était plus de 6000 reconstitueurs. C'est impossible de faire des répétitions à 6000 reconstitueurs.
Waterloo, fin de campagne de Belgique. La campagne de Belgique, pour la fin de l'Empire, elle commence avec quelle bataille ?
D'abord, l'empereur va arriver sur Charleroi, donc il va avoir des escarmouches sur Charleroi, puis il va remonter, ils vont se battre sur Ligny, aux quatre bras, et à la fin sur Waterloo.
En passant ici à Ligny.
Et en passant par Ligny, oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe à Ligny ? On y est aujourd'hui, ce week-end. Donc, qu'est-ce qui va se passer le 16 juin 1815 à Ligny ?
Alors, à Ligny, qu'est-ce qui va se passer ? Napoléon va être au centre de la bataille puisqu'il va combattre les armées prussiennes. Les armées prussiennes vont devoir reculer, mais pas en déroute du tout. Une partie des armées va repartir sur Wavre. Ils vont coordonner leurs troupes avec les Anglais qui vont se rassembler à Waterloo. Donc ce sera la débâcle française.
Waterloo en 1815, c'était le déluge. C'était quoi la météo ici à Ligny pendant la bataille ?
Elle était plus clémente qu'à Waterloo, enfin, puisque c'est passé quelques jours avant. On n'a pas ce déluge actuel à l'époque, quoi.
D'accord, il faisait calme. Par contre, le temps qu'on a depuis quelques jours ici en Belgique, c'était le temps qu'on peut imaginer avoir eu en 1815.
Alors oui, au mois de juin, avant la bataille de Waterloo, c'est calmé vers 11h30. L'intensité de la pluie s'est calmée vers 11h30. Ouais.
On va revenir au cœur de l'action. Nous sommes à Ligny. Le général Gérard dirige la bataille de Ligny. Comment ça se passe et quels sont les ennemis présents ici à Ligny ?
Alors beaucoup de troupes prussiennes, beaucoup de Landwehr, donc des troupes pas très aguerries à la bataille. Donc ils vont se battre dans tous les villages aux alentours de Ligny et Ligny même. Ce que Napoléon ne savait pas, c'est qu'ils sont partis en ordre. Donc, ils sont pas, comme je vous l'ai dit au début, ils sont pas partis en déroute. Donc, tout a été bien mis en place et ils sont repartis complètement en ordre avec Grouchy et Gérard derrière eux, mais avec un jour de retard. Eux vont prendre position sur Wavre. Ce qui est assez comique dans la légende, c'est qu'on va dire c'est de la faute de Grouchy ou c'est de la faute de Ney. Eh ben non, c'est pas la faute de Grouchy et c'est pas la faute de Ney. Il y a un responsable et c'est l'empereur. Et l'empereur n'est plus au top de sa forme et les armées ont évolué. Ils savent comment ils se battent puisque, pour vous expliquer, Grouchy va suivre un corps d'armée. Alors, tactiquement, ce qui se passe, si vous suivez 30 000 hommes, vous avez 30 000 hommes. Quand vous faites une retraite, vous prenez des positions fortes et des positions hautes, ou par exemple Wavre. Donc, il doit chaque fois contourner, parce que dès que vous avez un contact, vous devez contourner la fameuse tenaille. Vous ne savez pas contourner un corps de 30 000 hommes, puisqu'il prend chaque fois des positions fortes, et il a deal, et chaque fois, il va faire un combat de retraite coordonné.
Ici, à Ligny, nous sommes accueillis au 11e Hussards. Il y a de la cavalerie, il y a de la ligne, il y a de la garde. Comment ça se passe un peu, toute cette organisation au niveau des régiments?
Ici, on est beaucoup moins qu'à l'époque, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. C'est de la reconstitution, on ne meurt pas sur le champ de bataille. On se connaît depuis 20 ans, donc c'est assez facile à diriger sur un champ de bataille. Et comme je vous l'ai dit, on ne répète rien non plus, quoi. Donc ici, on donne un petit canevas, donc c'est pas un plan défini 100% sûr. Et il y a un peu d'improvisation, et la bataille se déroule toujours correctement, quoi.
Quels sont les corps d'armée qui sont représentés ici, à Ligny?
Pas des corps d'armée, on va dire plutôt des escadrons, enfin, même dirais des pelotons, parce qu'on n'est vraiment pas nombreux. Il y a des dragons, il y a des hussards. En face, vous avez des troupes hollandaises à cheval, mais ils sont pas nombreux non plus. Vous avez de la garde, vous avez de l'infanterie légère, de l'infanterie de ligne, l'artillerie. Donc, on va dire que ce serait une belle bataille.
Une belle bataille sous la pluie cette année.
D'après les informations que j'ai reçues, a priori, il ferait bon en après-midi.
Alors, je pense que la bataille, c'est fin d'après-midi, hein.
C'est ça, c'est vers 18h.
En tout cas, Monseigneur, Maréchal, merci d'avoir consacré quelques minutes. Vous allez rester avec nous, hein, on va prendre l'apéro ici.
Non, je dois direct aller sur l'Empereur. Là. J'ai audition avec l'Empereur.
L'Empereur est ici,
Il est à Ligny, là. Je vais envoyer quelques aides de camp pour voir où il se situe et je le rejoindrai aussi vite.
En tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir répondu à nos questions. On va écouter une musique militaire napoléonienne et puis nous irons chez les dragons.
Écoutez Radio Solidarité, la première radio francophone entièrement dédiée à la solidarité.
Voilà, donc nous sommes à la cavalerie, Nous avons eu le maréchal Ney qui représente aujourd'hui et lors de la bataille de Waterloo le maréchal Grouchy. Mais nous avons également un général des dragons qui est à nos côtés. Bonjour général.
Oui, bonjour.
Vous représentez quel général et c'est quoi un dragon ?
En fait, je suis le général d'Ornano, cousin de l'empereur. Malheureusement, le général d'Ornano n'est pas présent ni à Ligny ni à Waterloo parce qu'il avait été blessé la veille dans un duel, enfin la veille, un peu quelques jours avant dans un duel et était resté à Paris. Mais sinon, je commande donc les dragons.
C'est quoi
les
un dragon?
Les dragons, c'est une unité qui initialement vient de l'Allemagne. La base, ce sont les Allemands qui ont créé ça. Ce sont des troupes qui se battent aussi bien à pied qu'à cheval. Ils peuvent charger en rang serré comme la cavalerie, mais également faire des coups de main, c'est-à-dire arriver à cheval, mettre pied à terre, tirer, remonter à cheval et partir ailleurs. C'est cela que sont les dragons.
Comment on reconnaît un dragon ?
Les dragons, ce sont en général, ils sont habillés de vert, portent un casque.
Une longue crinière, je pense.
Une longue crinière, oui, bien sûr, le casque similaire à peu près au casque des cuirassiers. Donc, et la crinière servait en fait à protéger des coups de sabre. Donc si on recevait un coup de sabre à l'arrière, ça protégeait la nuque parce que le crin de cheval, étant très costaud, empêchait le sabre de couper.
C'est un peu pour ça, dans la ligne, on voit beaucoup de soldats dans les images qu'on peut voir dans les gravures, avec des tresses et des longs cheveux et des tresses dans le dos pour empêcher les coups de sabre.
Les tresses évitaient également d'avoir un coup de sabre un peu trop mortel.
Un dragon à cheval, il fait quoi? Comment ça se passe? Quelles sont les armes? Quelles sont les différentes choses qu'il a?
Un dragon à cheval, il a, comme tout le cavalier, son sabre, mais porte également donc une carabine pour intervenir quand il doit mettre pied à terre.
Comment se représente une arme, une carabine, comme vous dites, fusil? Comment ça se représente et comment ça fonctionne?
C'est le même fusil que l'infanterie, à part qu'il est un peu plus court. Et bien sûr, c'est également donc à base de la mise à feu, c'est le silex.
Donc on est au silex, on n'est pas encore sur une amorce.
Exactement.
Et comment ça se passe pour charger un fusil? Parce qu'on le charge par le canon.
On le charge par le canon et disons le problème justement de la cavalerie, c'est qu'ils ne savent le recharger que lorsqu'ils mettent pied à terre. À cheval, ils ne se servent pas de leur fusil. Ils ont également deux pistolets dans les fentes. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont engagés vis-à-vis de l'ennemi, ils peuvent s'en servir une fois, ils n'ont pas le temps de recharger, donc après, c'est avec le sabre.
Votre régiment, les dragons, représente combien de cavaliers ici en reconstitution ?
Ici en reconstitution, malheureusement, nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes en tout 8 pour la reconstitution de Ligny. Mais sinon, normalement, le groupe en lui-même, nous sommes plus ou moins une vingtaine.
Donc 20 personnes,
20 personnes.
Pour à cheval, une reconstitution ? Vous participez à des grosses reconstitutions. Bon, ici, on est à Ligny, c'est une petite reconstitution, mais il y a des reconstitutions un peu partout en Europe.
Oui, disons, chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir participer à une reconstitution, nous faisons bien sûr Waterloo, puisque c'est en Belgique et c'est tout près, mais également certaines reconstitutions en France, en Corse, donc un peu partout, il y a des reconstitutions de l'Empire.
L'Empire, ça représente quoi pour un reconstituteur quand on participe à ces campagnes?
L'Empire, vous savez, l'Empire, personnellement, je suis dedans depuis ma jeunesse. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et je suis un peu un fanatique. Donc chaque fois qu'on peut représenter ce qui se passait à l'époque, eh bien, je tiens à être présent.
À votre avis, pourquoi l'Empire, l'Empereur, a un succès encore à l'heure actuelle?
Son aura, ce qu'il a fait, parce que l'Empereur, non seulement il a fait beaucoup de batailles, beaucoup de campagnes, mais il a fait d'autres choses très bien. Entre autres, le code Napoléon qui nous régit toujours à l'heure actuelle. Il a fait énormément de choses pour la France, des monuments, et il a organisé plein de choses.
On annonce à nos auditeurs que pour l'instant, il y a une pluie battante sur le bivouac de Ligny. Il y a des tentes qui viennent de s'écrouler sur le poids de l'eau. Voilà, donc on est vraiment en direct dans ce bivouac. Hein. Alors on invite les auditeurs à venir nous rejoindre et à venir visiter un bivouac qu'à l'époque. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est sous la pluie. En tout cas, général, merci d'avoir pris le temps de passer près de nous ici sur Radio Solidarité. Et nous avons Eric qui vient d'arriver ici le brasseur. Bonjour Eric, comment vas-tu?
Bonjour, très bien, malgré la pluie.
Eric, vous êtes aide de camp?
Aide de camp du maréchal Ney.
Ici, quelle est votre fonction? Qu'avez-vous, qu'apportez-vous ici à la reconstitution de l'INI?
Mais disons, mon rôle, en fait, moi, je suis les yeux et les oreilles du maréchal. Donc, le but, c'est de l'accompagner partout sur le champ de bataille ou dans les réunions de préparation. Le but aussi, c'est d'envoyer des messages, d'aller chercher des informations à gauche, à droite sur le champ de bataille pour l'informer de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment le rôle de l'aide de camp, en tout cas.
Ça, c'est pour votre rôle comme figurant, comme reconstituteur aux côtés du maréchal Ney. Aujourd'hui, le maréchal Grouchy, parce que Ney n'était pas à Ligny. On m'a dit ce matin que vous vous étiez occupé de la distribution...
Des bons de rationnement.
Des bons de rationnement pour les troupes présentes ici au bivouac. Comment ça se présente? Comment ça se passe?
Mais en fait, on crée des bons de rationnement. Chaque unité se présente à nous qui lui remet son bon de rationnement en fonction du nombre de personnes, de soldats. Et ensuite, il passe auprès des vivandières pour recueillir donc tous les victuailles pour le bivouac.
Alors, qu'est-ce qu'on distribue sur un bivouac?
Pour faire de la soupe, des légumes, carottes, oignons, poireaux, aussi de la viande, saucisses, côtelettes, pour que chaque reconstitueur puisse préparer sa nourriture avec l'aide des vivandières. Donc c'est de la nourriture de bonne qualité, je dirais, mais de premier ordre.
On cuisine sur du feu de bois?
Quand on arrive à allumer le feu de bois, oui. Ce qui est un peu plus compliqué dans ces jours-ci, mais oui, c'est sur des grilles, feu de bois, donc devant les tentes, où il y a une ligne de feu qui est constituée, et chaque compagnie cuit ses victuailles sur le feu de camp.
On va faire une petite pause musicale. On va passer sur une chanson des dragons. On va passer les dragons de Noël en honneur des dragons.
Ils ont décoré Paris, les fiers dragons de Noël, avec les drapeaux ennemis. Ils ont décoré Paris. Quand l'on l'a laissé passer, les Français reprennent la Lorraine. Quand l'on l'a laissé passer, ils ont eu du mal à cesser. Ils ont traversé le Rhin avec Monsieur de Turenne au son des flûtes et tambourins. Ils ont traversé le Rhin dont l'on l'a laissé passer. Ils ont eu du mal à cesser. Ils ont incendié Coblence, les fiers dragons de Noailles, et pillé le Palatinat. Ils ont incendié
Nous ont rejoint ici au studio, au cœur de la cavalerie. Ici, nous sommes 11e Hussard et nous avons le colonel Emes, qui ne joue pas ce rôle ici à Ligny, mais c'est quand même le colonel Emes. Bonjour colonel.
Bonjour.
C'est quoi la cavalerie et qu'est-ce que vous y faites ici?
Moi, en fait, ici, je suis l'aide de camp de Grouchy. J'interprète un commandant de Hussard. Je suis le commandant
qui a bien existé à Ligny, le commandant des hussards, du 11e ou du 4e hussard. Mais le 11e hussard, malheureusement, n'était plus à Ligny.
Voilà, donc. Voilà. Mais comme il faut des hussards et qu'on ne peut pas avoir des uniformes dans toutes les guerres, on doit prendre ce qu'on a.
On essaye de rassembler tous les régiments. Il y a du 4e, il y a du 7e, il y a du 11e. Parfois, il y a du 6e. Mais...
Le 11e hussard, combien de soldats? C'est de la ligne ou c'est de la garde?
Les hussards sont de la ligne. Et ici, nous sommes 4 du 11e hussard.
Ils sont comment les uniformes des hussards? On a parlé tout à l'heure des uniformes des dragons. Et comment sont les uniformes des hussards?
Ah, ben c'est les plus beaux, bien sûr. C'est les plus beaux. Bon, c'est tout de la ganse, beaucoup de boutons, beaucoup de dorures. Les hussards ont des belles tresses. Jusqu'à une certaine époque, pour se protéger des coups de sabre. D'ailleurs, on a une belle effigie ici du 7e hussard qui se promène, il faut le trouver, avec des belles tresses qui représentent très bien le hussard.
Le vrai hussard de l'époque.
Hussard, oui, ça, oui, il le fait bien.
Je sais que vous êtes aussi très impliqué dans la confection d'uniformes avec votre épouse. L'uniforme, ils sont fabriqués comment? En quelle matière déjà?
Du drap de laine, du lin, et alors de la ganse pour les brandebourgs.
Et alors, je vois que vous avez tous du cuir entre les jambes.
Ça s'appelle un charivari, c'est une surculotte, c'était pour protéger quand on monte à cheval, pour l'arrachement des chevaux, tout ce qui s'en suit. Botte, elle se met en dessous, botte à la hussarde, avec des plis pour la facilité de rentrer le coup de pied.
Ici, dans le bivouac, hein, on est accueilli chez vous, hein, dans vos tentes. Oui. Comment ça se passe la vie de bivouac ici entre soldats?
Ah, la vie de bivouac, je pense que la vie de bivouac, aujourd'hui, on va faire un très bel entraînement de cavalerie. On va aller dans le village faire des réquisitions.
C'est quoi un baptême de cavalerie?
Ah, le baptême de cavalerie. Je ne peux pas le dire maintenant parce qu'il y a des jeunes qui vont être baptisés ce soir. Donc, je ne peux pas tout déclencher comme ça. Mais bon, ils vont avoir très mal.
D'accord. Et pourquoi on fait un baptême?
Première bataille.
Donc, leur première bataille au sein du 11e.
Au sein du 11e et à cheval.
Et c'est une tradition chez la cavalerie?
Oui, c'est une tradition. Et je pense que nous sommes 48 cavaliers aujourd'hui. Va justement un nouveau qui arrive, qui est le capitaine du 10e escadron, qui va se joindre à nous. Donc, ils ont un beau baptême ce soir qui est prévu.
Donc, des nouveaux. Et ça se faisait déjà à l'époque, ce genre de baptême?
Oui, bien sûr.
C'est ce qu'on appelait un bizutage un peu.
Un bizutage.
On va continuer notre petit tour. Ok, on va mettre un petit peu de musique.
Dans les prisons de Nantes, landi-lu-di-lu-dan, di-lu-di-landi-landi-lu-di-lu-dan. Dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier. Personne ne vint le voir, landi-lu-di-lu-dan, di-lu-di-landi-landi-lu-di-lu-dan. Personne ne vint le voir que la fille du geôlier, à la fille du geôlier. Un jour il lui demande, landi-lu-di-lu-dan, di-lu-di-landi-landi-lu-di-lu-dan. Un jour il lui demande, oui que dit-on de moi, que dit-on de moi? On dit de vous en ville, landi-lu-di-lu-dan, di-lu-di-landi-landi-lu-di-lan. On dit de vous en ville que vous serez pendu et vous serez pendu. Mais il faut qu'on me pende, landi-lu-di-landi-lu-di-landi-landi-landi-landi-landi-landi. Mais il faut qu'on me pende, déliez-moi les pieds. La fille était jeunette, landi-lu-di-landi-lu-di-landi-landi-landi-landi-landi. La fille était jeunette, les pieds lui a déliés. Le prisonnier alerte, landi-lu-di-landi-lu-di-landi-landi-landi-landi. Le prisonnier alerte, dans la Loire s'est jeté. Dès qu'il fut sur les rives, landi-lu-di-lu-dan, di-lu-di-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi- prit à chanter. Je chante pour les belles, landi-di-di-landi-di-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-
Si je reviens à Nantes, landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-
dans les prisons de Nantes. Landy, 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 Land. Dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier, y avait un prisonnier.
Radio Solidarité, la radio solidaire.
Mais nous avons Michael, alors Michael qui est du 11e Hussard, qui est collectionneur également de matériel et de choses touchant l'Empire et touchant les soldats et la cavalerie. Bonjour Michael.
Bonjour.
Alors Michael, je sais que tu es un peu stressé, c'est normal, c'est pas grave. C'est pas le maréchal Ney qui a l'habitude des studios de télé, des studios de cinéma ou encore des radios. Tu es collectionneur, hein. Qu'est-ce que tu collectionnes et combien ça coûte? Combien cette passion? Parce que évidemment, on connaît tous à la télévision un grand collectionneur napoléonien, Jean Chalençon, qui est un grand collectionneur français qu'on a tous vu à la télévision. Mais on sait que ça coûte cher. Qu'est-ce que tu collectionnes et pourquoi cette collection et cette passion?
Déjà pour l'uniformologie, je collectionne, j'aime bien de monter des mannequins en taille réelle. Je collectionne aussi tout ce qui est soldats de plomb, maquettes.
C'est quoi l'uniformologie? Tu as parlé d'un terme d'uniformologie. C'est quoi l'uniformologie?
Chez nous en Belgique, on a aussi le folklore, donc là on parle de costume. Un uniforme, c'est quelque chose qui vient coller à la peau et qui est en règlement militaire. Donc on représente bien quelque chose. Il y a des tenues d'officiers, des tenues de troupes, il y a un peu de tout. Donc moi, je crois que j'ai 14 uniformes maintenant chez moi. Et j'ai de l'infanterie, j'ai de la cavalerie, j'ai du civil.
Comment justement on peut refaire un uniforme à l'identique pour avoir un uniforme comme il y avait 200 ans?
Avec beaucoup de recherches, les images, dans les bouquins, au musée, dans les archives. Donc voilà, c'est très compliqué pour certains uniformes.
Donc l'uniformologie, c'est vraiment une passion, c'est vraiment une recherche de tous les jours.
Une recherche de tout. Donc moi, j'essaye toujours d'avoir les pièces les plus authentiques possibles.
Et comment on y arrive?
Donc c'est très compliqué, surtout pour trouver les bons tissus, les bonnes couleurs. Et les matières aujourd'hui sont très compliquées. Voilà, comme vous avez parlé de prix tantôt, ça prend un coup.
Alors on parle de matières, on sait que le colonel Emes nous a parlé de drap de laine. Et c'est quoi les autres matières qu'on peut retrouver?
Il y a pour l'intérieur, on travaille avec du lin, on travaille avec du cuir, on travaille avec de la broderie, on travaille avec du fil d'eau. On travaille avec plusieurs sortes de tissus.
C'est cher, d'accord, mais est-ce qu'on en trouve encore? Est-ce qu'on trouve encore ces matières sur le marché?
Oui, très compliqué, mais on en trouve encore. Et par quelques artisans qu'on connaît, quelques sociétés qui confectionnent des uniformes ou qui fournissent du matériel.
J'ai entendu dire, hein, parce qu'en préparant cette émission et en me promenant dans le bivouac et en posant des questions aux gens, il y en a beaucoup qui commandent des choses à l'étranger et entre autres au Pakistan.
Oui, parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, mais la qualité ne sera jamais la même que par chez nous.
Donc c'est vraiment important d'avoir cette qualité à l'identique qu'on ne peut retrouver que pour soi.
Du moins pour moi, oui. Après, voilà, ça dépend du budget des gens aussi. Voilà, quoi.
Eh ben, parlons d'un budget. Un uniforme classique de soldat, de ligne par exemple, ça peut revenir à combien de l'avoir à l'identique?
Complet à l'heure d'aujourd'hui, ben, on va quand même chercher dans les 3000 euros complet.
Complet. Alors c'est quoi complet justement?
Donc si on parle d'un grenadier par exemple, d'infanterie de ligne, pendant une certaine période, il portait le bonnet à poil. Donc c'était en poil d'ours. Malheureusement, maintenant, on ne sait plus avoir l'ours, donc on l'a remplacé l'ours par de la chèvre, qui est un coût moins cher quand même. Après, on parle de shako, après 1806 jusqu'en 1812. Après, ben, il y a la biveste, il y a les épaulettes, il y a le fusil qui coûte maintenant, nouveau, une reproduction coûte quand même 1500 euros.
Donc une vraie reproduction avec laquelle on peut tirer dans les mêmes conditions qu'à l'époque.
Qui sont passées au banc d'épreuve et qui sont certifiées par Peter Zolli. Après on parle de la giberne qui est en cuir. Et on parle de l'habit qui est en drap de laine, de la culotte, du pantalon, des chaussures à clous.
Alors tu parlais de 1806, de 1800 avant 1806, avant 1800, après 1806. C'est entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé?
Les habits ont changé, en fait, en 1789 jusqu'en 1812, les grenadiers de la ligne portaient des habits avec les pans longs. Et en 1812, ils ont fait le règlement Bardin, parce qu'il y avait une pénurie de tissus à ce moment-là. Donc ils ont décidé d'utiliser moins de matière dans les habits, donc ils ont raccourci les habits, sauf les officiers.
Pour que nos auditeurs comprennent bien, jusqu'en 1812, et puis après ils ont coupé...
Pour économiser la matière.
Pour économiser de la matière de drap de laine.
De drap de laine, oui.
Alors, quelles sont les couleurs? Est-ce que les couleurs des uniformes ont une importance ou pas?
Oui, pour différencier les régiments. Par exemple, nous, le 11e, si on prend un hussard du 4e et qu'on se met à un côté de l'autre, on est fort ressemblant. On a le col rouge, que le 4e a le col tout bleu. Ils ont la pelisse rouge, que nous, on a la pelisse bleue. Donc, ça différencie tous les régiments. Par exemple,
mais ça reste un uniforme bleu pour tous les hussards.
Pas spécialement. La pelisse peut être rouge, le dolman peut être rouge. Chaque régiment a son couleur. Par exemple, le 2e, c'est brun et bleu. Vu qu'il y avait 13 régiments de hussards, c'était 13 codes couleurs. En fait.
Quand on est à la ligne, on voit des uniformes bleus, des uniformes blancs, ouais. Des uniformes rouges. Ça représente également les
régiments.
Les régiments.
Par exemple, si on les uniformes rouges, on croise assez souvent ces régiments-là. On parle de régiments suisses, donc ça rappelle la Suisse, le rouge.
La Suisse, il faut rappeler pour nos auditeurs qu'il y avait des régiments suisses au service de la France, comme il y a toujours eu jusqu'à la Révolution. Et avant, c'était sous le régime royaliste, il y avait également la garde suisse qui était la garde royale.
Si on parle du vert, on parle de régiment de chasseurs. Le bleu, c'est tout ce
qui est... L'uniforme des chasseurs qui était l'uniforme de Napoléon.
Donc vert et rouge pour l'empereur, mais aussi dans les chasseurs, ils avaient tous un code couleur. Par exemple, moi j'ai un uniforme de 7e chasseur à cheval, mais là c'est les couleurs un peu plus bizarres, c'est vert et rose.
Vert et rose, d'accord. Tous les soldats qu'on a croisés ici au bivouac, ils ont tous des chapeaux. Quels sont les différents chapeaux? Tu as parlé de bonnet à poils, de shako, on a parlé avec les dragons des casques. Quelles sont un peu toutes ces différences?
Pour tout ce qui est cavalerie lourde, c'est des casques comme on a parlé tantôt avec notre général des dragons. Après, il y a le bicorne qui a presque toujours existé jusqu'à la fin de l'Empire. Après, on parle de bonnet de police, que c'est une coiffe qu'on met quand on est en repos dans le bivouac ou quand on est hors service. On parle de bonnet à poils. C'était pour... En fait, le bonnet à poils servait parce que quand l'ennemi nous voyait au loin, on paraissait très grand. Parce qu'à l'époque, les gens étaient fort petits, quoi.
Mais tu n'es pas très grand non plus.
Non. Mais donc, c'était pour impressionner l'ennemi. Et après, on a passé au shako. Parce qu'en fait, le shako, c'est aussi tout étudié. Donc, on parle, il y avait des gigulaires, on les tombe sur le shako. Vu qu'après 1806, on n'avait plus la tresse. Par exemple, chez nous, les hussards. Donc, on a remplacé nos tresses par des gigulaires. Quand on fermait en bataille, ça empêchait les coups de sabre. Donc, voilà.
Donc, shako, bonnet à poils.
On est toujours coiffé.
Mais avec quoi comme coiffe, les différences? Le bonnet de police, j'ai entendu qu'il y avait des bonnets de police.
Le bonnet de police, c'est une coiffe de caserne, on va dire. Donc, on met ça en repos, on met ça quand on n'est pas en service. Le bonnet à poils fait partie de la grande tenue.
Et la tenue de bataille.
Mais en bataille, par exemple, on ne met pas le plumet, on ne met pas le cordon. Donc ça veut dire qu'on est en bataille. Quand on est en parade, on met le cordon raquette, on met le plumet pour faire beaucoup plus beau, pour être présentable.
La pluie commence un petit peu à se calmer sur Ligny. Donc on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent venir visiter le bivouac et voir la parade et la reconstitution de la bataille cet après-midi. Ligny 1815, vous allez avoir toutes les informations et tout le programme de cette bataille. Ici, au 11e Hussard, qu'est-ce que vous mangez en bivouac?
Par exemple, on a eu un excellent cuistot qui nous a préparé une très bonne viande à sa façon sur le feu, dans une poêle. On peut manger, par exemple, la nourriture de l'époque était beaucoup de la soupe.
Donc la ligne des soldats mangeaient de la soupe ou des ragoûts.
Voilà, c'était que ça. Et du pain, voilà. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient dans les villages? Ici, on va un peu plus loin, on essaye quand même de bien manger. Et surtout, important de prendre un repas qu'on se retrouve entre amis, qui est très important.
Quels sont le menu de ce week-end?
Ce week-end, donc, hier, c'était des entrecôtes. Aujourd'hui, notre cuisson va nous faire un poulet maringo.
Alors poulet maringo, c'est quoi?
C'est un repas que l'empereur a adoré et lui a ajouté des écrevisses dedans.
Il y aura des écrevisses dans le poulet maringo?
Je pense que oui, qu'il en a pris.
Bon, ben, je vais rester avec vous pour goûter et manger ce repas. Tu parlais, on est entre amis, on se retrouve en reconstitution. Est-ce que la reconstitution, c'est une famille, c'est des amis qui se retrouvent, qui font la fête après les batailles?
Oui, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que, aussi que je fais de la reconstitution, parce qu'on parle de famille et d'amis. Donc c'est des gens qu'on rencontre, et moi par exemple ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, donc ça fait 10 ans que je vois les mêmes personnes, mais je suis à chaque fois heureux de les revoir le vendredi quand on monte un camp, quoi.
Comment ça se passe les soirées dans un bivouac?
Ah ben alors là on prend toujours quelque chose pour offrir à nos amis, on se retrouve toujours autour d'un feu et à raconter des anecdotes, se préparer pour les batailles de le lendemain, les défilés, et surtout de boire un coup ensemble.
Est-ce qu'on chante au coin du feu?
Bien sûr.
Alors quel genre de chant?
Les chants d'Empire par exemple, donc il y en a plusieurs. Tantôt je pense que vous avez passé les Dragons de Noailles, qui nous arrivent souvent à chanter autour du feu. Donc voilà.
Et nous allons mettre une chanson maintenant aussi qu'on peut écouter autour du feu, je l'ai entendu tout à l'heure avec des régiments, c'est Fanchon.
Fanchon, ouais.
Donc on va l'écouter.
Oui.
En tout cas, merci Mickaël de nous avoir rejoint ici en direct dans le bivouac du 11e Hussard à Ligny pour cette reconstitution de la bataille de Ligny. Merci et bonne bataille. Merci. Et bonne journée.
Et n'hésitez pas à venir nous voir malgré le temps. C'est un temps qu'il y avait à l'époque.
Voilà, donc nous allons écouter Fanchon, qui était une chanson encore connue maintenant dans les guindailles, hein, dans les fêtes de village. Et ici, elle est chantée au coin du feu par les reconstituteurs.
Amis, il faut faire une pause, traverse-toi l'ombre d'un bouchon. Buvons à l'aimable Fanchon, chantons pour elle quelque chose. Que son entretien réduque la mérité de gloire. Elle aime ma rire, elle aime ma gloire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime ma rire, elle aime ma gloire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime ma rire, elle aime ma gloire. Elle aime à chanter comme nous. Oui, comme nous. Quand son préfère la grillade, à d'autres mais plus délicats, son teint prend un nouvel éclat quand on y laisse une rasade. Ah, que son entretien réduque la vérité de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Fut baptisé avec du vin. Un bourguignon fut son parrain, une bretonne sa marraine. Ah, que son entretien réduque la vérité de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Cruel, que lorsqu'on lui parle d'amour, mais moi je ne
Rassemblée solidaire. Radio Solidarité.
Voilà donc, c'est Laurent en direct de Ligny, de la reconstitution napoléonienne, de cette dernière victoire de Napoléon. C'est ici qu'on va se quitter sur Radio Solidarité. On va ensemble passer encore ces quelques jours ici à Ligny, donc aujourd'hui et demain pour moi, qui vais rester un peu avec nos amis du 11e Hussard. Je voudrais remercier chaleureusement Franck Simon alias Maréchal Ney, remercier Pascal Targeux alias le colonel Emmes, il y avait Michael Debrou, il y avait Eric, enfin il y avait beaucoup de monde qui sont passés nous voir sous la tente du colonel Emmes au cœur du bivouac de Ligny avec le 11e Hussard. C'est la cavalerie. Merci de nous avoir écoutés. Il est 11h passé de 18 minutes, vous êtes sur Radio Solidarité, la météo n'est pas bonne, elle va s'améliorer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici à Ligny, je vous souhaite un bon week-end à tous et merci de nous avoir écoutés.
Radio Solidarité vous accompagne toute la journée. Radio Solidarité.